Piazinda.
Buradayız.
Nous sommes là.
Newfie. Bijane.
Nahnu huna.
Amle Berem.
We are here.
Eine Show von Geflüchteten für alle.
Real Stories.
Reportage.
Informations.
Tipps.
Projekt.
Events. Jeder zweiten und vierten Mittwoch um 16 Uhr.
Join us every second and fourth Wednesdays of the month.
Our voice. Die Stimme der Unsichtbaren.
Auf Radio Dreieckland.
Le but de la boîte des couets est de rendre des voix visibles.
En tant que couets, nous avons des histoires.
Des histoires qu'on aimerait partager.
Nous avons besoin de la sécurité.
La reconnaissance est une partie de notre sécurité. La diversité des personnes couées fait en sorte que nous avons besoin d'être entendus.
Nous avions besoin d'un espace, aujourd'hui nous l'avions. Ensemble, nous sommes plus forts.
Bonsoir et bienvenue dans La Voix du Coin, le podcast de Our Voice, diffusé chaque troisième mercredi du mois sur la radio Darkland. Nous émettons depuis Freiburg en Allemagne et vous pouvez nous suivre en direct partout dans le monde sur le site de la radio Darkland de 16h à 17h. La Voix du Coin a pour objectif de mettre en lumière les trajectoires, les réalités et les expériences des personnes LGBTQ+, réfugiées en Allemagne, plus particulièrement dans la région du Baden-Württemberg. Ce projet a été une initiative de Our Voice. Il est soutenu par le ministère des Affaires sociales, de la santé et de l'intégration à partir des fonds régionaux approuvés par le Parlement régional du Baden-Württemberg. Moi, c'est Christelle Thépier avec pour coordination et à la technique Ruby Traoré. Au programme de notre 7e édition de La Voix des Couères, nous allons écouter la prise de parole des organisateurs de la TSD et un groupe d'interprètes qui ont mis l'ambiance ce 17/06/2026 à l'occasion de la TSD qui avait pour objectif diversité, droits des LGBTQ+, et lutte contre la discrimination. La Voix des Couères nous propose aujourd'hui un témoignage de Marie-Claire, migrante camerounaise vivant dans les environs de Bad Krossingen. Pourquoi et comment a-t-elle quitté son pays? On va le découvrir dans cette émission. Avant de revenir au détail de cette émission, nous vous proposons d'écouter Vincent de Sarah Connor. C'est une chanson allemande sortie en 2019. Elle raconte l'histoire d'un jeune homme nommé Vincent qui découvre et accepte qu'il est attiré par les hommes. Nous écoutons.
Vincent kriegt kein Hoch, wenn an Mädchen denkt. Hat es oft versucht und sich echt angestrengt. Alle seine Freunde spielen GTA. Vincent taucht lieber ab und tanzt zu Beyoncé. Denkt nur an ihn und an den Tag, als ihn zum ersten Mal sah. So cool stand da und Vincent war klar, dass das jetzt wohl Liebe war. Mama, ich kann nicht mehr. Band Football Star Träume so groß, das perfekte Paar. Hochzeit, Haus und Kind, alles durchgeplant. Doch jetzt liegt sie wach, ob das schon alles war. Und sie denkt an ihn und an die Zeit, als sie noch so verknallt war. Jetzt ist alles so ernst und sie weiß nicht mehr, ob das wirklich Liebe war. Models in Amerika. Vincent hat zwei Kinder und einen starken Mann. Er hätte nie gedacht, dass man so lieben kann. Und jetzt liege ich hier wach und denk an den Tag, als ich zum ersten Mal verknallt.
Vous venez d'écouter Vincent, interprété par Sarah Connor. Un choix proposé par Christelle. La chanson parle des émotions et des doutes et de la difficulté de vivre son orientation sexuelle dans un monde où l'on peut encore ressentir de la peur ou de la pression. Le message principal est celui de l'acceptation de soi, l'amour et de la tolérance. Nous commençons l'émission par la prise de parole des organisateurs de la CSD, suivi d'un groupe d'interprétation d'animation à cet événement. Nous écoutons.
Ihre Existenzen angegriffen und unsere Rechte in Frage gestellt werden, möchten wir daran erinnern, unsere bloße Existenz ist politisch. Unsere Leben, unsere Körper, unsere Liebe und unsere Freude sind Widerstand. Wenn wir sicher sind, wenn wir laut sind, wenn wir tanzen, lachen und feiern, dann stellen wir uns aktiv gegen die Kräfte, die uns zurückbringen möchten. Dabei dürfen wir nie vergessen, woher Pride kommt. Die erste Pride war ein gewaltsamer Aufstand, ausgelöst durch Polizeigewalt gegen queere Menschen, welche in Frieden lachen, feiern, tanzen und einfach sie selbst sein wollten. Diese Geschichte verpflichtet uns. Sie zeigt, dass unsere Kämpfe immer auch um Räume der Freude, der Freiheit und gemeinsames Erlebensglück werden. Widerstand in all seinen Formen. Das Zelebrieren unseres Seins als Protest. So wie der Christopher Street Day seitdem immer war und immer sein wird. Unsere Freude ist kein Gegensatz zum Widerstand. Sie ist Teil davon. Unsere Party ist kein Rückzug aus der Politik. Sie ist ihre Verkörperung im Alltag, im Miteinander, im öffentlichen Raum. Gerade in einer Gesellschaft, die uns Unsichtbarkeit aufzwingen will, ist kollektive Lebensfreude ein radikaler Akt. Wenn ich dabei nicht tanzen kann, ist es nicht meine Revolution. Dieses oft Emma Goldman zugeschrieben Zitat bringt es auf den Punkt, worum es uns geht. Widerstand muss nicht nur laut und kämpferisch sein, er darf und muss auch lebendig, sinnlich und voller Freude sein. Resistencia, Party, Sahne, Widerstand steht genau für diese Verbindung, für eine Praxis des Widerstands, die nicht nur kämpft, sondern auch genießt. Für einen Protest, der nicht nur wütend, sondern auch lustvoll ist. Für eine Bewegung, die sich nicht vorschreiben lässt, wie richtiger Widerstand auszusehen hat. Wir feiern, weil wir uns nicht brechen lassen. Weil wir uns gegenseitig stärken, weil wir zeigen, wir sind da, wir bleiben da und wir werden lauter. Gemeinsam, sichtbar, unaufhaltsam.
C'était un réel plaisir pour moi d'être à cet événement en tant qu'émigrant. Le discours du maire, le discours des organisateurs de la CSD, ce jour était une source de motivation sans limite et merci au groupe musical. Avant de poursuivre l'émission, nous vous proposons d'écouter Ich bin ich, wir sind wir de Rosenzold. C'est une chanson allemande sortie en 2004. Le titre en français, Je suis moi, nous sommes nous. La chanson parle de l'acceptation de soi, de l'identité et du fait d'assumer qui l'on est malgré les regards des autres. Nous écoutons, nous revenons après la musique. La chanson est souvent associée à des messages de tolérance, de liberté et de fierté d'être différent, ce qui l'a rendue populaire auprès de nombreuses personnes, notamment dans la communauté LGBTQ. Pour la suite de notre programme, nous allons écouter l'interview de Marie-Claire. Elle fait partie de la communauté LGBTQ+, âgée de 34 ans. Elle a dû surmonter mariage forcé, violence et en plus de cela, avec une grossesse pour arriver arrivé dans son premier pays d'accueil qui est l'Italie. Aujourd'hui, étant en Allemagne avec sa fille d'un an et demi, elle nous raconte son incroyable parcours.
Bonsoir, moi c'est Christelle et bienvenue sur notre podcast La Voix des Coins.
Bonsoir Christelle, moi c'est Marie-Claire et merci de m'avoir invitée sur votre plateau.
J'aimerais que tu te présentes, tu donnes ton nom, ton âge, ton pays d'origine.
Moi c'est Marie-Claire, j'ai 34 ans et je viens du Cameroun.
Depuis combien de temps tu fais partie de la communauté queer?
Je fais partie de la communauté queer depuis pratiquement 12 ans. Voilà.
Comment les personnes LGBTQ+, sont-elles aperçues dans ton pays d'origine?
Dans mon pays d'origine, les personnes LGBTQ sont très très mal aperçues. Donc, ils sont considérés comme des personnes qui ne devraient même pas exister dans la société.
À quel moment as-tu compris que ton identité ou ton orientation sexuelle pouvait te mettre en danger?
À partir du moment où j'ai commencé à comprendre que j'étais une personne LGBTQ et j'ai commencé à prendre des renseignements et puis j'ai compris que c'était quelque chose qui était banni dans mon pays. Je devrais normalement cacher ça parce qu'il était impossible pour moi de faire savoir ça à mes proches.
Quelle forme de discrimination ou de persécution as-tu déjà vécu?
J'ai vécu une discrimination beaucoup plus psychologique et parfois physique. J'ai été également battue par ma famille et la famille de mon ex-mari.
Y a-t-il eu un événement particulier qui t'a poussé à partir de ton pays? Si oui, raconte-nous.
Pour répondre à ces questions, ça sera un peu difficile pour moi parce que c'est quelque chose, quand j'y pense, ça me rappelle encore beaucoup de traumatismes que j'ai vécu. Alors, étant une personne LGBTQ, il me devrait de cacher mon identité absolument à ma famille et aussi à la société camerounaise. Donc, j'étais contrainte de faire un mariage masqué dans le but de cacher cela, étant donné que je recevais de la pression de mes parents qui me demandaient de me mettre en relation, d'avoir des enfants. Et donc, j'ai réussi à me marier. Je me suis mariée avec un monsieur qui vivait en Italie. Pour moi, ça m'arrangeait parce que je me disais, bon, il n'est pas au pays, donc je peux continuer ma vie normalement sans problème. Mais malheureusement, après le mariage, j'ai été obligée d'aller vivre chez les parents de mon ex-mari. Et là-bas, mon mari n'étant pas là, donc j'ai rencontré une autre personne de ma communauté LGBT qui, elle, s'assumait normalement. Et on a entamé une relation un peu plus intime. Et malheureusement, pour moi, j'ai été découverte par le beau-frère, donc le petit frère de mon mari. Donc, c'était un samedi, par là. Ma belle-mère n'était pas là. Ma belle-sœur non plus, vu que je vivais avec ma belle-mère, ma belle-sœur et mon beau-frère. La fille en question, elle est venue me rendre visite à la maison. J'ai partagé la chambre avec ma belle-sœur. Et comme il n'y avait personne à la maison ce jour-là, on s'est dit, bon, pourquoi ne pas profiter? Parce qu'elle venait toujours à la maison. On savait qu'elle était juste une amie. Voilà, on a commencé notre petite intimité dans la chambre. Vu qu'on savait qu'il n'y avait personne, bon, à ma grande surprise, mon beau-frère, il est entré sans frapper à la porte et il nous a surpris en plein acte sur le lit, quoi. Donc, ça a été vraiment un calvaire pour moi. Et oui, il a commencé par nous violenter, ma copine et moi. Et il nous a déchiré les vêtements et par la suite, il a retiré son téléphone et il s'est mis à nous filmer. C'était vraiment très, très traumatisant. Ma belle-mère, quand elle est retournée, il a raconté et elle a essayé de me mettre à la porte. Ils ont appelé mon mari, lui par contre. Étant donné que j'étais enceinte de ma fille, ma belle-mère a commencé par dire qu'elle n'est même pas sûre que l'enfant est de son fils. Donc, c'est une malédiction. Je dois absolument partir de la maison. Ils ont par la suite informé mon mari. Lui par contre, il n'a pas voulu le croire parce que je portais son enfant. Il a décidé de m'aider. En fait, ma belle-famille dépendait financièrement totalement de mon mari. Donc, lui, il les a dit, si vous essayez de mettre ma femme dehors, je ne vous enverrai plus d'argent pour subvenir à vos besoins. Donc, j'étais contrainte de rester là. Donc, il a essayé de faire un regroupement familial de toute urgence en Italie pour que je puisse partir de là parce que son beau-frère, tout le temps, il me menaçait de me dénoncer à la police. Ils ont informé mes parents. Mes parents n'ont même pas voulu écouter ma version. Ils m'ont rejeté. Ils m'ont fait comprendre que de toutes les façons, je suis mariée. Donc, je ne les appartiens plus. Donc, moi de gérer comme je peux. Quelques mois après, j'ai reçu mon visa où je suis partie de la maison. Un jour, j'ai dormi chez une amie et après ça, j'ai pris la route de l'Italie. C'est comme ça que je suis arrivée en Italie. Mais malheureusement pour moi, en Italie, mon mari recevait beaucoup de pression de la part de sa famille parce que Une fois en Italie, ils ont découvert que j'étais partie, donc j'étais allée rejoindre mon mari en Italie. Donc, il recevait beaucoup de pression de sa famille. Sa maman qui lui demandait de me renvoyer. En Afrique parce que je suis une malédiction pour son fils. J'empêche son fils d'évoluer. Donc, son fils, il a commencé par utiliser ces paroles-là, les paroles de chantage. Tu dois retourner au Cameroun. Nous ne sommes pas compatibles. Donc, j'étais obligée de me donner à lui par force. Sexuellement, il me violentait tout le temps. Donc, c'était très difficile pour moi. Et une fois quand j'ai accouché, la situation a empiré. Donc, bref, c'est quelque chose que j'ai plus trop envie de penser à ça parce que quand je repense à ça jusqu'à aujourd'hui, j'arrive pas à supporter quoi. Donc, je préfère m'arrêter là. En Italie, j'ai pu rencontrer une de mes sœurs camerounaises qui m'a aidé à dénoncer mon ex-mari à la police parce que c'était en plein hiver, en décembre. Il faisait très froid et je venais d'accoucher mon enfant. Elle avait à peine 3 mois. Il nous faisait dormir sous le froid parce qu'il n'allumait pas le chauffage. Il ne nous donnait pas à manger. La fille camerounaise qui s'appelle Vanessa, elle m'a aidé à aller. Vu que je ne parlais pas encore la langue italienne, lui, il m'avait empêché de faire les cours de langue italienne. Donc, je dépendais totalement de lui, donc je pouvais rien faire à la maison. Elle m'a aidé à aller le dénoncer à la police. Je lui ai dénoncé à la police. Par la suite, la police m'a renvoyé chez les assistantes sociales. Mais une fois chez les assistantes sociales, je découvre que lui, il ne m'avait enregistré nulle part sur le territoire italien. Donc, je n'avais aucun document de séjour sur moi, ni mon enfant. C'était difficile pour moi de continuer. Les assistantes sociales qui me mettaient également la pression que je dois avoir une résidence pour pouvoir rester. Donc, j'étais obligée de chercher moi-même mon propre logement et je n'avais pas de moyens financiers. Donc, j'ai dû contacter une association au nom de Tchak. Cette association m'a promis qu'ils devaient m'aider à obtenir mon permis de séjour. Donc, ils m'ont amené au service d'immigration et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais par la suite, on m'a informé que j'avais fait une demande d'asile. Étant donné que je ne connaissais même pas ce que c'était une demande d'asile, ils m'ont fait comprendre qu'ils m'ont fait une demande d'asile, mais il me faut la résidence. Je suis retournée voir les assistantes sociales. Les assistantes sociales m'ont fait comprendre qu'il est impossible pour eux de m'obtenir une résidence, ni un hébergement, en fait, une attestation qui prouve que je suis hébergée par eux. Donc, je recevais la pression au niveau des assistantes sociales. Je recevais également la pression venant des assistantes sociales qui me mettaient la pression que je dois laisser le papa de ma fille voir l'enfant. Étant donné que c'est un monsieur qui nous a vraiment maltraités, moi, je ne voulais plus qu'il essaye d'être en contact avec mon enfant. Donc, j'étais obligée de partir. Il y a une amie en France, mon ex-copine lesbienne avec qui j'ai une relation à l'université au Cameroun. Elle est en France, qui m'a aidé à arriver en France. Une fois en France, elle ne pouvait pas m'héberger parce que jusqu'à aujourd'hui, elle continue à cacher son identité étant donné qu'elle vit avec sa propre maman en France. Donc, elle est en relation avec un monsieur français, donc elle ne pouvait pas m'héberger chez elle. Elle m'a proposé donc de venir en Allemagne. Une fois en Allemagne, je pourrais avoir de l'aide sociale en Allemagne. Elles m'ont accompagnée dans une village pas très loin de la frontière allemande, je ne me rappelle plus trop. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée dans la ville de Saarbrücken et c'est à Saarland dont j'ai demandé l'asile pour ma première fois.
Comment as-tu pris la décision de quitter ton pays?
La décision de quitter mon pays venait particulièrement de mon ex-mari parce que je lui avais fait comprendre que vu que son frère, son petit frère me bastonnait tout le temps, je recevais des paroles de la part de sa maman qui me menaçait tout le temps. J'étais vraiment plus en danger. Au quartier, je ne parvenais même plus à circuler parce que tout le monde, j'étais pointé du doigt. Donc, mon ex-mari, comme j'ai dit tantôt, il m'a aidé à obtenir le visa regroupement familial qu'on l'a fait en cachette d'ailleurs. C'est à partir de là que j'ai pu quitter le Cameroun.
Y a-t-il une loi qui condamne ou une amende aux personnes queer dans ton pays d'origine?
Oui, effectivement, il y a une loi qui condamne les personnes LGBTQ au Cameroun. Et donc, quand une personne LGBT est dénoncée par la police, cette personne risque la prison qui va de 6 mois à 5 ans. Et non seulement la prison, ces personnes sont déjà rejetées par leur famille, comme ça a été le cas pour moi, et totalement rejetées par la société camerounaise.
Qu'as-tu ressenti au moment du parti?
C'est vrai que ça n'a pas été facile pour moi parce que j'ai laissé derrière moi ma première fille. Donc ça a été un choc. C'était très difficile pour moi, mère. Je devais partir parce que c'était la seule solution pour moi de partir. Donc, je partais de mon pays sans dire au revoir ni à ma famille, ni à ma propre fille. Donc, ça a été très, très difficile pour moi.
Quels ont été les plus grands défis pendant ton voyage ou ton exil?
Le plus grand défi pour moi, ça a été de quitter mon ex-mari parce que c'était pas chose facile pour moi. Pour moi, je me disais, quand une femme, en fait, chez nous, quand une femme est mariée, surtout avec un mariage traditionnel, cette femme-là n'est plus appelée à divorcer. Donc, pour moi, quitter ce mariage-là, c'était un défi que je devais relever et grâce à Dieu, j'ai pu relever ça. Donc, pour moi, ça a été le début d'une réussite pour moi, quoi.
Y a-t-il des communautés LGBTQ+ dans ton pays d'origine? Si oui, quel était leur rôle dans ta vie?
Alors, cette question, je ne peux pas répondre par oui ou par non, parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais, je me suis jamais intéressée, parce que je faisais l'effort de refouler ces sentiments-là. Donc, je faisais l'effort de cacher ce sentiment. Donc, je n'étais jamais intéressée à savoir s'il y a une communauté LGBTQ ou pas dans mon pays d'origine.
As-tu bénéficié d'un soutien de la part d'une organisation ou bien d'une amie ou bien d'un membre de la communauté LGBTQ?
Non, pas du tout. Parce que je n'étais en contact avec personne qui était la fille même en question avec qui j'ai eu une relation et qu'on nous a découverte. Elle est partie de l'immeuble dans lequel elle vivait. Donc, je n'étais plus en contact avec elle. Je n'étais plus en contact avec personne. Donc, j'étais en contact juste avec une amie à Yaoundé qui est même la grande sœur de ma copine qui est en France, qui m'a aidée. Donc, je n'étais qu'en contact avec elle. Mais elle n'est pas une personne LGBT. Elle a juste accepté m'aider parce que sa petite sœur lui avait parlé de ma situation.
Qu'est-ce qui a été le plus difficile de laisser derrière toi?
Comme je l'ai dit tantôt, c'est ma fille. Donc, laisser ma première fille est partie comme ça, ça a été très, très difficile pour moi. Donc, je n'ai pas vécu, même étant en Italie, il ne se passait pas un jour sans que je ne coule les larmes. À chaque fois, je voulais retourner pour récupérer ma fille, mais ce n'était pas possible pour moi de retourner. Donc, ça a été la chose la plus difficile pour moi. Et jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, je ne parviens pas toujours à combler ce vide-là. Pour moi, ça reste la chose la plus difficile dans cette épreuve.
Comment s'est passé ton arrivée dans ton pays d'accueil qui est l'Allemagne?
En allemand, je dirais que au début, tout s'est bien passé. J'ai rencontré un monsieur à la gare. J'ai essayé d'expliquer ma situation à ce monsieur et il a été très, très, très bienveillant avec moi. Donc, il m'a accompagné personnellement, demandé l'asile, chose que je ne croyais pas. Il m'a mené manger, donc il m'a accompagné, demandé l'asile. Et après cela, il m'a même laissé son contact. Au cas où si j'ai besoin de quelque chose, je peux lui recontacter. Donc,
quelles difficultés as-tu rencontrées dans la procédure de ta demande d'asile ou d'installation?
Une fois au camp de Heidelberg, pour moi, c'était un choc parce que je savais pas ce que c'est que les camps d'asile. Donc, arriver dans un camp d'asile comme le camp de Heidelberg, pour moi, c'était le lendemain. J'ai même fait une crise d'angoisse où j'ai été amenée aux urgences parce que j'arrivais pas à accepter ça. Donc, pour moi, c'était très, très difficile. Et avec un enfant, je me sentais fatiguée. Donc, je parvenais plus à me contrôler. Genre, je comprenais pas ce qui se passait. Mais j'ai été quand même avec les filles avec qui je partageais l'appartement à Heidelberg. Elles ont été un grand soutien pour moi et j'ai commencé à m'habituer. Maintenant, au niveau de la langue, au niveau de l'intégration, c'est très, très difficile pour moi parce que avec un enfant. Et aussi la langue a été la chose la plus difficile parce que je parlais pas l'allemand. Je savais juste dire hello. Donc, je connaissais rien en allemand. Donc, pour moi, c'est un peu comme si j'étais dans un autre monde. Mais ce qui m'importait, c'était de trouver une solution, de trouver une personne qui peut me protéger. Donc, pour moi, je me disais que bon, c'est vrai, c'est difficile, mais j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de quelqu'un qui peut m'écouter. Donc, c'est un peu ça.
Te sens-tu en sécurité aujourd'hui pour vivre ton identité librement?
Oui. Je dirais vraiment un grand oui. Je me sens vraiment en sécurité. Donc, je suis entourée par une association, Rosa Health, qui m'aide au quotidien. Donc, aujourd'hui, je m'exprime. Donc, je suis libre de dire à n'importe qui que je suis une personne LGBTQ, malgré que ça n'a pas été facile, même étant en Allemagne. Parce que pour moi, je me disais toujours que, bon, peut-être mais ma famille avait raison. Peut-être c'est quelque chose qui... Peut-être c'est un démon qui vit en moi que je dois refouler. Donc, pour moi, ce n'était pas évident d'accepter, mais aujourd'hui, grâce à l'aide de ces associations-là, je parviens à m'accepter et à vivre normalement ma vie.
Comment tu reconstruis ta vie ici en Allemagne?
Ici en Allemagne, j'essaie de m'adapter petit à petit. C'est vrai que vu que je suis venue en Allemagne sans connaître, je ne connaissais pas ce que c'est que la procédure d'asile. Donc, je suis tombée sur une procédure, on appelle la procédure de Dublin, qui me freine aujourd'hui. Ça me bloque, donc je ne peux pas faire les cours de langue. Je ne peux pas inscrire mon enfant à la crèche, donc c'est un peu difficile pour moi. Mais je sais que si je fais face à ce processus d'asile, parce que pour moi, retourner en Italie, ça sera un peu comme rentrer encore dans un problème. Donc, pour moi, ça sera tellement terrible. Donc, je suis en train de résoudre un problème. Je suis en train de faire face à un problème où je veux des solutions. Donc, on me demande de retourner en Italie. On me demande de retourner vivre le calvaire que j'ai vécu en Italie. Donc, pour moi, ça sera comme ressombrer, donc recommencer tout à zéro. Donc, c'est un peu ça. Mais je sais que si je fais face à cette procédure-là, je pourrais m'adapter, je pourrais m'en sortir normalement en Allemagne.
Quel rôle joue la communauté quoi locale dans ton intégration ici en Allemagne?
Je dirais que la communauté LGBTQ ici à Freiburg, Rosa Health, joue un très très grand rôle dans mon intégration en Allemagne. Donc, je dirais que ce sont eux qui m'aident au quotidien. Donc, quand j'ai un problème, je n'hésite pas à les contacter et elles sont là, toujours prêtes à m'aider. Donc, je dirais que sans cette communauté à Freiburg, je sais pas si je devais parvenir à faire face à mes difficultés, quoi. Cette association, ils organisent des rencontres, dont à chaque fois on a des petites rencontres comme dernièrement il y avait la marche des migrants et la marche des personnes LGBTQ. Pour moi, c'était ma toute première fois de voir tout un monde dehors qui s'assume, qui sont des personnes LGBTQ et d'autres qui ne le sont même pas mais qui nous acceptent. Pour moi, c'était comme vivre quelque chose que je n'avais jamais, c'était comme vivre un rêve, quelque chose que je n'avais jamais imaginé vivre, quoi. Donc c'est comme ça, ils organisent des petites rencontres comme mardi passé on a eu une petite réunion où j'ai même cuisiné, donc on a mangé, c'était très très bien.
Y a-t-il des aspects de ton identité que tu peux exprimer aujourd'hui et que auparavant tu ne pouvais pas l'exprimer?
Oui, effectivement, aujourd'hui j'ai plus honte de dire à une personne que peut-être je vois peut-être une fille, j'ai plus honte de dire à la fille là, bon voilà, tu me plais. Donc si je sais qu'elle est une personne LGBTQ et que bon je ressens des choses pour elle, j'ai plus honte d'exprimer ça, donc je ne refuse plus mes sentiments. Je le dis aussi haut qui je suis sans aucune couverture, quoi.
Quel préjugé ou incompréhension racontes-tu encore dans ton pays d'accueil qui est l'Allemagne?
C'est vrai qu'ici en Allemagne, avec mes frères africains, c'est pas tout à fait ça, parce que malgré que nous sommes tous en Allemagne, d'autres continuent toujours à nous juger. Donc avec eux, c'est toujours pas évident de s'assumer normalement. Donc on est toujours obligé de cacher ce côté-là. Mais bon, je pense que pour moi, ça ne me cause pas trop grand problème parce que je me dis de toutes les façons, je ne suis pas au Cameroun, donc je ne risquerai pas une prison.
Quels sont aujourd'hui tes projets et tes espoirs pour l'avenir?
Mon espoir aujourd'hui, c'est parvenir à m'intégrer en Allemagne, parvenir à avoir une situation stable en Allemagne, c'est-à-dire faire les cours de langue, faire une formation, trouver un travail et voilà, m'intégrer normalement dans la société. Allemand.
Que aimerais-tu que le grand public comprenne mieux sur les réfugiés queer?
Bon, ce que j'aimerais que le grand public comprenne mieux, pas seulement sur les réfugiés queer, mais sur toutes les réfugiés, que nous ne sommes pas seulement des dossiers, nous sommes aussi des personnes, nous avons devant nous des rêves, des objectifs à atteindre. Donc, de ne pas nous considérer seulement comme des dossiers, comme je l'ai dit, de nous considérer comme des personnes en part entière, dont nous avons beaucoup d'espoir et plein d'avenir devant nous.
Quel message aimerais-tu adresser aux personnes queer qui vivent encore dans le contexte de persécution?
Ce que j'aimerais adresser à mes confrères LGBTQ, c'est vrai que c'est pas facile, surtout des personnes qui n'arrivent pas encore à s'assumer, c'est de s'assumer, de pas avoir honte. Je sais que c'est pas facile, mais ne restez pas enfermés dans votre maison, sortez, essayez de trouver des solutions, contactez des associations, un peu comme l'association Rosa Health dans laquelle je fais partie aujourd'hui. Donc, essayer de contacter les associations parce que je me dis que ce n'est qu'en contactant les associations que vous pourriez trouver solution, vous accepter tel que vous êtes et vivre normalement dans la société.
Quel message aimerais-tu passer au gouvernement et à la population allemande?
Ce que j'aimerais passer comme message au gouvernement allemand et à la population allemande, c'est de nous accepter comme ça. Donc, nous ne venons pas en Allemagne parce que c'est un choix du pays. Nous venons en Allemagne parce que nous faisons face à des problèmes. Donc, nous fuyons la persécution dans des pays qui ne nous ont pas acceptés. Moi, par exemple, je viens de l'Italie. Je ne suis pas venue en Allemagne. Je n'ai pas quitté l'Italie parce que l'Italie ne me plaisait pas ou bien j'avais juste choisi l'allemand parce que l'allemand peut-être est plus mieux que l'italien. Non, je suis venue en Allemagne parce que je n'avais pas d'autre solution. Je n'avais pas où aller, donc il me fallait absolument partir. L'État italien ne m'a pas protégée malgré que j'étais une personne LGBTQ. J'étais une femme qui a été victime de violences conjugales. Ayant dénoncé même cette violence à la police italienne, je n'ai pas reçu la protection qu'il fallait avec mon enfant. Donc j'étais contrainte de quitter l'Italie avec un enfant, sous le froid, et me retrouver en Allemagne. Maintenant, une fois en Allemagne, je fais face à une procédure qu'on appelle Dublin, dont je ne connaissais même pas vraiment cette procédure. Et il m'est vraiment, avec cette procédure, c'est tellement difficile pour nous. Avec le Land Ransom qui me coupe les aides sociales. Donc pour moi, financièrement, c'est un peu très difficile de gérer le côté là avec l'enfant et tout. Donc c'est très difficile pour moi. Donc je reçois des lettres du Land Ransom qui me dit, voilà, tu ne recevras plus d'aide financière parce que tu dois retourner en Italie. La seule chose qu'on peut t'aider à faire, c'est de te payer le billet d'avion pour que tu retournes en Italie. Donc pour eux, c'est un peu comme si je n'avais aucun problème en Italie, donc je dois retourner en Italie. Donc vraiment essayer de régler ce problème-là et nous accepter comme ça. Et à la population allemande, c'est vrai que c'est difficile pour vous de recevoir les étrangers dans votre pays, mais nous ne venons pas dans votre pays pour peut-être essayer de vous arracher votre pays, non. Nous ne venons pas également dans votre pays pour vous nuire. Nous venons dans votre pays parce que nous recherchons une protection. Nous venons dans votre pays, nous cherchons le meilleur, nous cherchons un avenir, nous cherchons à nous intégrer, nous cherchons une stabilité morale aussi parce que c'est difficile psychologiquement, ça ne va pas. Moi, par exemple, je rencontre les psychologues pour pouvoir gérer mes problèmes psychologiques. Donc, nous ne venons pas pour vous déranger. Nous venons parce que nous avons besoin d'aide. Et si, entre-temps, vous pouvez vraiment nous aider le mieux qu'ils peuvent, ça sera vraiment la bienvenue pour nous.
Merci, Marie-Claire, d'être passée au studio aujourd'hui. C'est fut vraiment un grand, grand plaisir de t'avoir ici.
Merci aussi, Christelle. Ça a été un plaisir pour moi.
C'était là l'incroyable parcours de Marie-Claire, migrant en Allemagne, qui se retrouve dans une procédure de Dublin avec sa petite fille. Les difficultés qu'elle raconte aujourd'hui ne peuvent pas nous laisser incompatibles, surtout avec sa petite fille d'un an et demi. Merci à Marie-Claire pour le courage, la détermination, l'espoir et la bravoure de partager son histoire avec nous. Bon courage pour la suite. Après l'histoire émouvante de Marie-Claire, nous écoutons Taren d'Angel. C'est une chanson française sortie en 2018. Elle aborde l'amour entre deux femmes et les difficultés liées au regard des autres et des préjugés. Nous écoutons.
Si seulement elle savait comment tu la regardais, elle serait effrayée. Si seulement elle savait comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Mais laisse temps, elle pourrait vous donner une chance de vous retrouver. Il lui faudra du temps, c'est sûr, pour oublier tous ses préjugés. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Si de run c'est pas trop accepté, mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi le roi tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Si seulement elle savait comment tu l'envisageais, même si t'es une fille. Si seulement elle savait comment tu pourrais l'aimer tellement plus que lui. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté.
mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît.
La chanson parle d'une femme qui aime une autre femme et qui voudrait pouvoir vivre cet amour librement, même si la société ne l'accepte pas toujours. C'est devenu une chanson importante pour beaucoup de personnes de la communauté LGBTQ+, parce qu'elle parle de l'amour sincère, l'acceptation de soi, le droit d'aimer sans honte. Là, je vais passer un coucou à la spicatrie, en commençant par la pupu, Calou, Lou, Mamacita, Astrid, Joachim, Kim, moi, la tomate, Mimi Love, Bridel, vous êtes tellement nombreux que à chaque fois, ça m'arrive souvent d'oublier la dernière fois, j'ai oublié Mamacita.
It doesn't matter if you love him or capital H-I-M, M, 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 M. Just put your paws up, cause you were born this way, baby.
My mama told me when I was young, we're all born superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of purple dry. There's nothing wrong with loving who you are, she said, cause it made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far.
Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen.
Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice your truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin. Believe capital H I N.
Love yourself and respect. I'm on the right track today.
Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, you're black, white, beige, Chola descent, you're Lebanese, you're Orient. Whether life's disabilities left you outcast, bullied or teased, rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this way.
No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white or beige, Chola or Orient made, I'm on the right track, baby, I was born to be brave.
Le but de la boîte des couets est de rendre des voix visibles.
En tant que couets, nous avons des histoires.
Des histoires qu'on aimerait partager.
Nous avons besoin de la sécurité.
La reconnaissance est une partie de notre sécurité. La diversité des personnes queer fait en sorte que nous avons besoin d'être entendus.
Nous avions besoin d'un espace, aujourd'hui nous l'avions. Ensemble, nous sommes plus forts.
Nous sommes là.
Nyofe, Bijane.
Nahnu huna.
Am le burad.
We are here.
Eine Show von Geflüchteten für alle.
Real Stories.
Reportage.
Informations.
Tipps.
Projekt.
Events. Jeder zweiten und vierten Mittwoch um 16 Uhr.
Join us every second and fourth Wednesdays of the month.
Our voice. Die Stimme, der uns
auf Radio Dreieckland.